Au fil des pages.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Un livre d'académicien. Henri Troya, La Traque, chez Grasset. Alors ce livre, c'est La Magie Troya, ou l'art romanesque suprême de vous faire entrer dans la peau d'un autre, vivre sa vie et respirer à son rythme. Qu'il s'agisse, comme dans View, qui est l'un de ses chefs-d'œuvre, d'une petite fille, ou d'un guide de montagne devenu simplet du village, comme dans La Neige en deuil. Alors là, il s'agit de Pouchkine, le poète Pouchkine. Et c'est une gageure, car le sujet est délicieusement désuet. Un jeune russe veut venger le plus grand poète russe, le héros des étudiants, Pouchkine, tué en duel par un Français pour les beaux yeux d'une coquette, Nathalie, la femme du poète. Or, il faut savoir, c'est que si nous sommes le pays de Molière et parlons la langue de Voltaire, ou du moins essayons de le faire, Pouchkine est à la Russie ce que Cyrano pourrait être pour nous. Le jeune Alexandre Rybakov part donc pour la France, toujours pour venger son poète, et devient le secrétaire de l'ancien jeune rival du poète, l'assassin, Georges Dantès, devenu sénateur du Second Empire. D'ailleurs, il a un nom à l'Alexandre Dumas, ce qui est assez amusant, mais c'est son vrai nom. Il est donc devenu sénateur du Second Empire et il a épousé la sœur de Nathalie, devenant ainsi post-mortem le beau-frère de celui qui l'a tué. J'espère que vous me suivez. Rybakov va donc venger celui qu'il appelle son maître à rêver. Et déjà, nous rêvons de cette époque où nous avions des maîtres à rêver. Tout cela nous vaut des pages ébouriffantes sur les cadets des écoles du tsar, avec des phrases comme « La table, avec sa nappe froissée, ses bouteilles à demi vides, ses verres renversés, ses assiettes souillées et ses coupelles débordantes de cendres, était le champ de bataille de la joie de vivre. » Où nous avons des pages aussi sur le Paris du Second Empire avec son bal Mabille, ses journalistes révolutionnaires comme le nouvel ami de Rybakov, un nommé Daniel Desroches, qui se fait évidemment appeler en bon révolutionnaire des Roches avec la particule. Ou encore sur la gouvernante, la charmante Isabelle Cornuchet, qui s'amourache de notre jeune homme et lui apporte des brioches parfumées. Enfin, tout cela serait susceptible de nous ennuyer agréablement, comme lorsqu'un homme agréable nous raconte sa jeunesse et le cours des choses voilà plus d'un siècle, si au détour des pages, un autre roman ne se faisait jour, celui de la montée du soir pour un homme qui fut brillant et défraya la chronique, le sénateur. Celui de la fin des emballements d'adolescents pour un Rybakov qui deviendra conseiller d'État, qui n'aura plus le temps de relire son poète et qui aura épousé sa cousine Valérie, dont il disait jadis que, blonde, fade et transparente, elle avait l'air d'une plante privée d'eau, et dont il écrit maintenant « c'est une personne douce et aimable ». Le roman du temps qui passe et de la grande histoire qui menace et où la jeunesse reste comme un vieux rhumatisme qui de temps à autre se réveillerait inopinément. Car finalement, bien sûr, l'étudiant renonce à abattre Georges Dantès, il renonce à son idéologie lorsqu'il voit l'homme. Et Troya écrit cette phrase magnifique que ferait bien de méditer les assassins au nom de l'idéologie. Je songeais qu'il fallait un manque total d'imagination pour oser transformer de but en blanc un homme vivant avec ses idées, ses souvenirs, ses projets, ses manies, ses espoirs, ses chagrins, en un tas de viande morte. Il écrit aussi parce qu'il était là, tout remuant et tout bruissant de paroles, Georges Dantès triomphait de Pouchkine, qui n'était qu'un revenant silencieux. Et comme se déclenche la guerre de 70, il écrit encore, il y avait une telle disproportion entre la menace d'un massacre collectif et l'idée du crime isolé que j'avais été prêt de commettre quelques mois auparavant, que j'en fus rétrospectivement accablé. Car, sans le vouloir, l'âge venant, j'ai rejoint le camp de l'homme que je désirais abattre. Alors, ce nouveau roman d'Henri Troya sur le pays cher à son cœur, la Russie d'antan, au sein de laquelle il vit toujours en esprit et nous héberge le temps d'un autre livre, est une sorte d'apologue sur les passions d'adolescente et la vanité des vanités de l'âge mûr, sur les plaisirs fragiles de ce monde et l'amour de la famille, sur la retombée des passions en amour et des amours en accoutumance. Avec ce temps joyeux et mélancolique qui est le propre d'Henri Troya, le conteur d'histoire.